Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous êtes actuellement sur la 94.9 FM sur Graphite et vous écoutez la saison 3, épisode 3 de Coup Critiques, l'émission où on parle de manga, de BD et parfois d'autres trucs toutes les deux semaines. Et aujourd'hui, on est avec Mathieu et Yaya et avec moi. Je vous laisse à vous dire bonjour à nos auditeurs.
Bonjour.
On est tous les trois membres de la BDBDEC, la bibliothèque de bande dessinée des étudiantes de Compiègne. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, suivre nos actualités et bien évidemment à la bibliothèque universitaire de l'UTC. On est parti pour une heure d'émission et on va tout de suite commencer avec une petite conversation autour de notre dernière lecture. Mathieu, je te laisse prendre la suite.
Alors moi, récemment j'ai lu un comic qui s'appelle East of West, qui a été publié entre 2013 et 2019. Alors... je sais pas trop comment je vais raconter l'histoire, c'est un peu compliqué. Ça se passe aux États-Unis, dans le futur, dans les années 2060. Et c'est une uchronie, ça veut dire que ça suit, on va dire, la vraie histoire de notre monde, jusqu'à un certain point qui change la timeline et qui fait que d'autres événements se produisent. Et dans East of West, le changement il se fait pendant la guerre de sécession. Au lieu que la guerre de sécession prend fin, elle continue. Il y a d'autres factions qui se rajoutent dans la guerre et elle prend fin à un moment où une sorte de comète, enfin une météorite arrive sur Terre et il y a une prophétie qui est énoncée. Bon bref, il y a plein de trucs un peu fantastiques, mystiques, magiques qui arrivent, qui fait que la guerre s'arrête et qu'un traité est signé entre eux. Donc au lieu que ce soit que deux camps, il y a sept camps dans East of West. Alors je vais pas donner tous les camps, c'est un peu compliqué. Et donc la prophétie, elle dit qu'il y a la fin du monde qui va arriver, blablabla. Donc ça suit la Bible, l'Apocalypse, il y a quatre cavaliers de l'Apocalypse qui vont arriver et puis... L'apocalypse, la fin du monde, c'est le genre
bordel,
de choses.
Quoi.
Le gros bordel, ouais, c'est okay. Ça. Et effectivement, donc au début, on se dit... parce qu'en fait, au début, c'est très réaliste, on se dit que c'est pas possible. Mais effectivement, il y a effectivement quatre cavaliers qui vont arriver et qui vont commencer un peu à faire n'importe quoi. Bref, le début de l'histoire, on comprend pas trop ce qui se passe parce qu'en fait, sur les quatre, il y en a qu'un seul des quatre qui se réveille et qui commence à chercher quelque chose, on comprend pas trop. Dans un monde où les sept factions qui sont en paix commencent à... Il commence à y avoir des tensions, il commence à y avoir la guerre et on comprend qu'en fait, la prophétie qui s'appelle le message dans l'histoire va se réaliser, mais on ne sait pas encore comment. Et je ne peux pas trop en dire parce que c'est très long. Donc moi, j'ai lu trois intégrales. Je ne sais pas trop, vous voyez, c'est sur 6 ans la publication. Je ne sais pas trop comment expliquer.
C'est difficile de raconter sans spoiler, par exemple.
Ouais, c'est très difficile de raconter sans spoiler. Et puis même, c'est très difficile de raconter tout court, en fait, parce qu'il se passe tellement de choses. Pour donner le style peut-être du comics, je dirais il y a un peu d'action, beaucoup d'intrigues politiques,
okay. Beaucoup
de fantastique aussi. Mais ce qui rend l'histoire vraiment bien, c'est le mélange de tous les environnements. Quoi. On a un peu de futur, on a pas mal de trucs un peu vaudou, un peu magique, beaucoup de politique aussi, et c'est ce qui rend l'histoire vraiment cool. Donc c'est son univers en particulier.
Okay. Mais c'est difficile à suivre ou pas ? Genre à comprendre ?
La première fois que j'ai lu, j'ai rien compris.
Okay.
Mais maintenant que je l'ai relu, ça va.
Ouais. Ok, d'accord. Et du coup, ouais, c'est fini.
C'est fini, ouais. C'est fini depuis 2019, depuis pas mal de temps. En fait, j'avais commencé, je m'étais arrêté parce que j'avais rien compris, et j'ai repris, j'ai tout relu et j'ai tout compris. Il y a un mélange de plein d'univers et plein d'inspirations qui fait que c'est très cool à lire et que c'est, bah ouais, c'est ça, c'est très cool à lire. Voilà. Et puis, je sais pas comment dire, il y a plein outre ce mélange d'inspiration d'ethnie, il y a plein de mythologies différentes. Donc il y a de la mythologie indienne, il y a un peu de nordique, on ne sait pas trop pourquoi, pas mal de Bible. Et ça, mais tout est lié et ça rend le truc vraiment très intéressant.
Okay. Et ben.
Voilà.
Okay, d'accord. Du coup, moi, ce que j'ai lu récemment, c'est Underground de Haruki Murakami, qui est un roman qui a été publié en 2000. Et en fait, on parle de l'attentat qu'il y a eu au gaz sarin dans le métro de Tokyo en 1995, du coup, qui est un attentat qui est vraiment arrivé pour le coup, et qui a été mené par une secte, la secte Home Shinrikyo. Et ça a été un événement très traumatisant pour, forcément pour les gens qui l'ont vécu, mais pour la société japonaise en général, parce que ce type de choses n'était jamais arrivé auparavant. Et du coup, le roman, c'est en quelque sorte un recueil d'interviews qui ont été dirigées par Haruki Murakami, pour essayer de mieux comprendre et d'apporter des réponses à l'attentat au gaz sarin du coup, qui s'est passé à ce moment-là. Donc il y interroge des victimes, des proches des victimes, mais aussi des membres de la secte en question ou des anciens membres de la secte. Et l'idée, c'est d'en apprendre le plus possible sur la personne qui est en face de lui et pas juste de dresser une chronologie de ce qui s'est passé. C'est pas tant ça qui l'intéresse, c'est vraiment le vécu de la personne en face de lui. Donc son intention, c'est de faire entendre la vérité sur ce qui s'est passé ce jour-là. Parce qu'en fait, à ce moment-là, le traitement médiatique avait été absolument catastrophique et beaucoup de gens s'étaient sentis, qui avaient été victimes ou qui étaient là ce jour-là, s'étaient sentis comme un peu des chiffres donnés par les médias, alors que bah, ils sont plus que ça. Du coup, c'était un peu pour redonner du pouvoir et une voix aux victimes et aussi de comprendre comment entre guillemets, ils ont pu en arriver là en tant que société. Comment une secte telle que celle-ci a pu exister. Comment les personnes qui ont commis cet acte ont pu arriver jusqu'à bah, commettre cet acte, justement. Comment leur société peut-elle amener à isoler certains de leurs membres, voire ne pas les empêcher de s'isoler tout court et à laisser les personnes partir dans des sectes, ce genre de choses. Et c'est donc tous ces thèmes-là qu'il essaie d'explorer à travers ses interviews, à travers aussi quelques réflexions personnelles pendant les interviews. Du coup, on est forcément plongé dans la vie de plein de personnes qui sont très différentes, dans forcément leurs doutes, leurs souffrances, leurs colères par rapport aux événements, parce que les interviews ont lieu, je crois, quelques mois, pas beaucoup plus que quelques années après les attentats, en fait, donc c'est très frais. Et il explique d'ailleurs, l'auteur, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont absolument refusé de parler, d'être interrogées par lui, parce qu'ils refusaient de revivre ces moments-là, en fait, et ce qui se comprend, il y a quand même des personnes qui sont mortes. Et beaucoup de personnes, des milliers de personnes qui ont été blessées plus ou moins gravement. Du coup, quand on lit ça, ça nous donne vraiment une grande fresque de profil et de vie de personnes différentes, en fait, puisque ces personnes nous. On est vraiment plongé dans leur vie, en fait, pendant quelques pages où ils racontent ce qu'ils ont vécu, justement. Donc, forcément, c'est pas simple à lire, vu qu'il y a des choses assez traumatisantes qui se sont passées. Et il y a des passages qui sont très forts et très durs à lire, je trouve. Donc. Quelque part, je pense pas qu'il faut être empathique pour le lire parce que ça te force à l'empathie de lire ça. Mais je pense qu'il faut. Enfin, si on est trop touché par les autres personnes, ça peut être vraiment trop compliqué à lire. Moi, je lis très peu de romans parce que j'ai du mal à rester concentrée dessus en général parce que c'est long et que j'aime bien les images. Mais là, c'était plutôt très facile à lire. Ça va très vite en fait. Ça change très souvent d'interviews, de personnes. Et du coup, on reste facilement accroché dedans. Il y a un côté assez addictif, en fait, à continuer à lire ça. Et aussi, c'est pas du tout répétitif. Enfin, on pourrait croire que c'est assez répétitif, parce qu'au final, c'est des dizaines d'interviews de personnes qui racontent un moment précis, c'est-à-dire plus ou moins la même chose, mais en même temps, pas vraiment, vu que ce sont des personnes différentes et leur vécu est différent. Du coup, ça reste très intéressant tout du long, je trouve. J'avais entendu parler du roman dans un reportage sur Arte, qui parlait de l'auteur, du coup, Haruki Murakami, qui est aussi très connu pour une autre série de romans qu'il a fait, qui est 1Q84, je sais pas comment ça se dit en fait. Du coup, si vous voulez en apprendre plus sur la vie de l'auteur ou sur les raisons pour lesquelles il a écrit ce roman, bah tout est expliqué dedans, c'est très très bien. Et voilà. Du coup, moi j'ai beaucoup aimé.
Mais du coup, il y a vraiment aucune transition entre les deux interviews ?
Comment dire ? Entre deux personnes interviewées ? Ouais. Non, en fait, en gros, t'as un chapitre. En fait, il a divisé son roman en plusieurs sections parce qu'en gros, il y a eu dans le métro de Tokyo, à ce moment-là, il y a eu des attaques, plusieurs attaques en même temps sur des lieux différents parce que c'était organisé forcément à l'avance. Du coup, il a divisé son roman en fonction des lignes de métro en fait sur lesquelles les personnes étaient au moment de l'attentat et aussi dans quel sens c'était et tout pour un peu que nous, en lisant, on puisse se faire une image mentale de ce qui se passe et qu'on puisse recouper les événements que racontent les personnes en fait. Parce que du coup, il y a plusieurs personnes qui vont parler de l'exacte même chose, mais d'un point de vue différent, parce que bah, littéralement, elles n'étaient pas à la même place, quoi, donc voilà. Et en fait, ouais, d'une personne à l'autre, du coup, il y a le nom de la personne, son âge, et puis l'auteur, il explique un petit peu sa vie, etc. Puis après, c'est une retranscription de ce qui a été dit pendant l'interview, et après, on passe à une autre personne. Mais il y a une plus grosse coupure entre le moment où il fait les interviews des victimes et le moment où il fait les interviews des membres de la secte, où là, l'auteur, il explique plus lui-même, il prend le temps, on va dire, d'amener une réflexion pour passer de l'un à l'autre et qui justifie ce choix de passer de l'un à l'autre. Parce que je crois que le roman n'a pas été écrit en un seul coup. Il avait d'abord sorti la première version, il n'y avait que les victimes, et après, il a été essayé d'interroger des membres de la secte, ce qui était assez compliqué, forcément, parce qu'ils n'avaient pas envie de parler. Et aussi, il y a beaucoup de personnes qu'il a interviewées, mais qui se sont rétractées après, qui n'ont plus voulu que leur témoignage soit dans le livre, parce qu'ils avaient peur des représailles de la secte, par exemple.
Parce que la secte, elle existe toujours ?
Oui, elle existe toujours. À l'heure actuelle, je ne sais pas. Mais au moment où il a été écrit, oui, elle existait toujours, la secte.
Putain.
Mais c'est juste le gourou de secte de ce moment-là qui a été mis, qui a été mis en prison. Du coup, ils ont dit qu'ils ont repris la secte et que ce n'est plus la même qu'avant, etc. Mais au moment du livre, elle existait toujours. Et il y a des gens qui en faisaient toujours partie, d'ailleurs, qui ont été. Été interviewé. Et c'était vraiment super intéressant de lire, de lire tout ça.
Rapidement, c'est quoi déjà les raisons pour lesquelles ils ont fait l'attentat
En fait, c'est expliqué... mais c'est des trucs de secte en fait. C'est expliqué qu'en gros, eux, ils sont convaincus qu'un jour il y aura l'apocalypse dans le monde et que seuls les membres de la secte vont y survivre.
Ah oui.
En gros, c'est ça l'idée. Et sauf que je crois que je suis pas sûre du tout, hein, mais il me semble que pourquoi ils ont fait ça, c'était qu'en tuant ces personnes, ça permettait de les faire passer en quelque sorte au paradis, c'était leur rendre service que de les tuer.
Oh là, okay.
Et puis il y avait aussi ce truc où finalement, ils se sont dit qu'ils allaient créer l'apocalypse eux-mêmes. Et du coup, ça commence un petit peu par là. Donc voilà. Mais aussi, autre chose qui était assez, enfin qui a créé beaucoup de problèmes à ce moment-là, c'est que quelques mois, voire un an auparavant, avant l'attentat, il y avait déjà eu un attentat au Gassarin par cette secte-là, ailleurs au Japon. C'est juste que la police et les enquêteurs n'avaient pas été assez loin dans l'enquête. Ils n'avaient pas réussi à leur attribuer cet attentat à 100%, ou en tout cas à les condamner pour ça. Du coup, ce qui a fait que ça a permis, un an plus tard, de venir à ça, quoi.
Super.
Ouais, voilà. Du coup,
c'est assez dur, quoi, comme lecture.
Super dur. Ouais, c'est super dur, mais je sais pas, j'étais vraiment dedans. C'était super intéressant aussi. Et c'est super tragique, hein, franchement. Moi, j'ai pleuré en lisant. Voilà, c'était pas marrant.
Bah, tu vas pas rigoler, tu vas pas te taper des barres.
C'est pas très drôle comme lecture, hein, j'avoue. On rigole pas trop. Donc voilà, je sais pas si vous avez des questions.
Non.
Ok.
Franchement pas.
Ça marche.
Bah, on en a posé. Hein.
C'est vrai que vous en avez posé. On va passer peut-être au gros de l'émission, au thème de cette émission. Le personnage du vampire dans la fiction. Donc, on se retrouve tout de suite après une petite pause musicale pour vous parler plus en détail de ce thème. Je vais lancer cette musique que vous connaîtrez peut-être, qui est Supermassive Black Hole de Muse. Et
elle connaît, bien sûr.
Bien sûr qu'elle connaît. Pour ceux qui connaissent cette musique, un petit peu de contexte, c'est une musique assez iconique du film Twilight, un film de vampire, forcément. C'est la scène du baseball où ils sont dans la forêt et puis... Puis joue au baseball et c'est assez classe.
C'est assez classe.
En vrai, ça a vraiment marqué les gens, la scène du baseball.
La scène du baseball, elle est iconique. Je crois que tu te rends pas compte parce que t'es pas un fan de Twilight.
Ah non.
Et même moi, je suis pas vraiment une fan de Twilight.
Mais on connaît la scène du baseball.
Je connais mes classiques, moi. Enfin bref, on se retrouve tout de suite. Se retrouve maintenant après cette merveilleuse pause musicale pour parler de notre thématique, donc comme j'ai annoncé juste avant, les vampires. Du coup, je vais commencer par introduire un peu cette partie en présentant un peu ce que c'est que le personnage du vampire dans la fiction, d'où il vient, ce qu'il représente. Et je vais commencer par déjà, c'est quoi un vampire? Je pense qu'on sait tous que c'est un vampire, mais je vais quand même repartir un peu sur ça. Pour moi, c'est un peu de ce que j'ai vu des recherches et de ce que je sais, c'est que c'est un type de revenant, un genre de créature folklorique qui est immortel et qui survit en buvant du sang humain. Ça, pour moi, c'est vraiment la base. Maintenant, ils sont souvent soumis à d'autres règles aussi, et d'autres lois auxquelles ils ne peuvent échapper. Mais ça dépend vachement des vampires, et de ce qu'on lit, et des romans, etc. Par exemple, on va avoir, des vampires qui ne peuvent pas aller au soleil, parce qu'ils brûlent, mais d'autres, ils peuvent aller au soleil quand même. Et...
C'est de pain, c'est la peau de killer, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est
ce qui ne fait killer. Moi, je pensais que les vampires ne pouvaient pas aller au soleil.
Mais bon. Ça dépend, parce que finalement, chaque œuvre a son vampire différent, quoi. Et c'est ça qui est beau avec les vampires. Du coup, il en existe depuis très longtemps parce que c'est une créature un peu de légende de base. Mais c'est surtout au 19e siècle que le personnage va vachement se populariser et va apparaître dans plusieurs œuvres littéraires jusqu'au Dracula de Bram Stoker en 1897. Donc, c'est vraiment pas le premier à parler de vampire dans la fiction, pardon. Mais c'est sa version du vampire, du coup, qui est Dracula, qui va vraiment marquer la culture en général et qui va créer des codes qui sont toujours énormément utilisés et reconnaissables aujourd'hui. Quand on pense à un vampire, même s'il y a plein de versions du vampire, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous revenir en tête et qui sont présentes dans beaucoup de choses. Par exemple, tout ce qui va être des changements, enfin des transformations en chauve-souris, en autre animal, la crainte de l'ail, le fait qu'ils peuvent pas se voir dans les miroirs, etc. Bah, tout ça, à la base, c'est des choses qui sont apparues, ou en tout cas qui ont été popularisées par le Dracula de Bram Stoker. Donc c'est bien de reconnaître l'importance de ce roman. Vas-y, dis-moi, Yaya.
Parce qu'en fait, ils ne peuvent pas se voir dans un miroir, parce qu'il y a une théorie, c'est parce qu'avant, les miroirs étaient faits en argent. Et du coup, eux, dans les codes très repris, ils craignent l'argent et tout ce qui est aussi signe biblique, etc. Et, tout.
Ouais.
Et du coup, maintenant, ils pourraient se voir devant les miroirs. Voilà.
C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a ce truc-là, mais tu as aussi un peu cette chose où comme quoi, ils ne peuvent pas se voir dans un miroir parce qu'ils n'ont pas d'âme ou je ne sais pas quoi.
Mmh.
Du coup, il y a un petit peu ce double truc. Et du coup, Dracula de Bram Stoker a connu énormément d'adaptations en littérature, au cinéma, même au théâtre, avec une comédie musicale qui s'appelle Dracula, l'amour plus fort que la mort. Et je voulais absolument le mentionner parce que j'adore cette comédie musicale.
Ah ben oui.
Et je ne vais pas plus en parler que ça parce qu'en vrai, c'est pas la peine. Mais
c'est la peur de. C'est comment elle s'appelle, la chanson hyper connue? C'est. Qui peut le juger?
Oui, qui peut le...
Mais en vrai, elle est trop bien cette chanson. Voilà.
C'est vraiment exactement ça. Il y a aussi, il y a encore. Bref. Je suis un peu obsédée par cette comédie musicale, mais c'est pas grave. Et du coup, il y a beaucoup d'adaptations dont on reparlera peut-être plus tard, pour certaines. Autre truc dont je voulais parler, c'est pourquoi on utilise des vampires dans la fiction. Mais en fait, il y a plein de raisons, je ne peux pas toutes les citer, mais l'une d'entre elles est surtout au 19e siècle, et de pouvoir parler de choses dont on n'a pas vraiment le droit de parler à ce moment-là. Et c'est un peu à ça que sert en général l'usage de la fantasy dans les romans, parce que comme ça n'existe pas vu que c'est de la fantasy, on peut dire des trucs qui ne se disent pas normalement, bah c'est pas grave vu que de toute façon ça n'existe pas. Par exemple, le personnage du vampire permet souvent de parler de ce qui va être de désir charnel, de sexualité, voire aussi d'homosexualité souvent, et ça se voit dans Dracula. Il y a des passages du roman qui ont été étudiés par, parce que c'est quand même un classique de la littérature de fantasy anglaise, et du coup qui ont été étudiés par des personnes qui s'y connaissent très bien en littérature et qui affirment que oui, ça parle d'homosexualité, il y a des passages où ça parle de ce genre de choses. Et d'ailleurs, ça se retrouve encore aujourd'hui parce que les vampires sont souvent représentés comme des objets de désir, ils sont beaux, ils sont attirants, ce genre de choses. Pas tout le temps, mais quand même souvent, je trouve. Ils sont rarement vraiment monstrueux, sauf dans certains cas. J'ai quelques œuvres dont je peux rapidement parler, par exemple Nosferatu, qui a connu un premier film en 1922 et un remake l'année dernière en 2024, qui en fait, basiquement, c'est une adaptation de Dracula. C'est juste qu'en 1922, ils n'avaient pas les droits d'utiliser Dracula. Du coup, ils ont changé les noms et ils ont un peu changé l'histoire aussi, et ils ont pris beaucoup de liberté. Et du coup, ça devient Nosferatu, qui est aussi un classique du cinéma. D'ailleurs, le dernier film est super bien. Je pense que je vais m'arrêter maintenant pour les recommandations. J'en ferai d'autres plus tard, pourquoi pas. Yaya, tu peux peut-être nous parler un peu plus de toi, de ce que ça a prévu de parler par rapport aux vampires, parce que moi, c'était plus une approche un peu générale sur le personnage dans la fiction, mais toi, je sais que tu as d'autres choses à dire, parce que tu as lu d'autres choses aussi que moi.
Bah surtout que là, c'est bien ce que tu as fait, c'est que tu as pu mettre un peu les bases de ce qu'on entend dans vampire, surtout que là, c'est vampire occidental.
Ouais.
Tu verras jamais un vampire musulman, par exemple. C'est vraiment un folklore occidental. Du coup, c'est bien de mettre les points sur les i. Et du coup, moi, personnellement, dans mes lectures, ça se voit dès la première lecture dont je vous ai parlé. C'est des lectures romantiques, hein, des shoujo à tout vie, à tout va. Bon, du coup, moi, un de mes premiers shoujo, c'était, et premier shoujo de beaucoup de filles de mon entourage, c'était Vampire Knight. Et c'était aussi Twilight. Twilight, j'ai regardé que les films. Et j'ai regardé une vidéo qui donnait les différences entre les livres et les films. Mmh. Et c'est ma sœur qui lisait les livres et qui m'obligeait à regarder les films. Surtout le film 2 de Twilight, qui était juste insupportable à l'époque pour moi.
Oui, le film 2, il est...
Mais au cas où, donc je vais faire une présentation très vite fait de Twilight et je vais vous donner une anecdote hyper intéressante. Du coup, l'auteur, c'est Stephanie Meyer. Je ne vous donnerai pas la date parce que je ne sais pas. Et en fait... Vous savez quoi ? Twilight est une inspiration d'un groupe de musique emo qui a été créé par un interne, donc un stagiaire dans Cartoon Network, genre du coup c'est trop bien. Mais pourquoi il l'a créé cette bande qui s'appelle My Chemical Romance ? C'est dû à son trauma au 11 septembre. Du coup il a regardé le 11 septembre et s'est dit putain c'est horrible. Et du coup il a fait un groupe de musique emo qui s'appelle My Chemical Romance. Enfin, c'est plus du punk rock, un truc comme ça. Et qui a inspiré Twilight. Et d'accord. Twilight a inspiré les plus grands. C'est-à-dire que, au cas où, normalement, c'est assez connu quand même comme anecdote, 50 nuances degrés, c'est une fanfiction de Twilight.
Mais non.
Mais si.
Mais quoi ?
Mais si.
Je vois pas le rapport là-bas.
En fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que l'autrice de 50 nuances de Grey, elle a écrit une fanfiction sur Edward de Twilight. Elle a dû la diffuser sur un truc de fanfiction.
Ah. Exactement.
Et c'est comme sauf ça, qu'en fait, passé. Après, comme je pense que c'était intéressant plus que pour une fanfiction, elle a changé les noms. Il y a des éditeurs qui l'ont repéré. Oh. Elle a changé les noms et elle a créé genre un peu plus, j'imagine, de l'histoire, quoi. Mais à la base, 50 nuances de Grey, c'est une fanfiction sur Edward de Twilight.
Et ouais, on en apprend tous les jours. Et 50 nuances de Grey est une et a été une inspiration pour, même je pense c'est aussi peut-être ouais, je pense que After c'est une fanfiction de 50 nuances de Grey, donc After pour les gens qui connaissent, moi je
même
je...
ça c'est une fanfiction de 50 nuances de Grey,
comme quoi en fait c'est fou comment le 11 septembre ça ça crée des œuvres.
Ouais, c'est sûr que...
Non, mais le lien, là, il est trop...
Mais c'est vrai que le lien, il est un petit peu énorme. Déjà, c'est vrai que je savais pas du tout qu'il y avait un lien avec My Chemical Romance, qui va comme un groupe, c'est super connu, quoi. Mm. Et je savais pas du tout que Toilette s'était inspirée de ça. Mais en vrai, je vois pourquoi, maintenant que tu le dis. Le truc un peu émo, un peu... ouais, je comprends.
Et du coup, bon, je vais vous présenter un peu... Surtout, moi, genre, je regarde via... Enfin, je vais vous faire un résumé par rapport au film, mm-hmm. pas par rapport au livre. Du coup, les films, c'est en plusieurs parties. Et en gros, l'histoire très courte, c'est Bella, qui est une fille qui vient de San Francisco, un truc comme ça, ou en gros dans le côté des États-Unis avec
de Floride,
qui vient en fait du côté des États-Unis où il fait tout le temps beau, etc. et tout. Et en fait, sa mère qui est séparée de son père s'est remariée et du coup là ils vont faire le tour du monde. Et du coup Bella elle a dit bon bah du coup je vais rejoindre mon père. Et en fait c'est dans un coin paumé où il fait toujours moche ou gris, etc. et tout. Et en fait elle rencontre une famille pas comme les autres, qui est en fait la famille des Cullen. Et en fait c'est là où elle voit Edward et qu'elle en tombe éperdument amoureuse et qu'elle se rend compte que c'est un vampire. Du coup les vampires chez eux c'est très beau, toujours, hein. Il faut qu'il soit beau pour qu'il puisse sucer du sang de base, genre ça c'est un truc... voilà.
C'est ce qui est le cas dans Twilight en tout cas. Pas forcément dans d'autres œuvres, mais dans Twilight, c'est ça qui est expliqué comme raison. Parce qu'ils sont très beaux pour encore plus attirer genre, les...
Exactement. Ils ont chacun leur pouvoir. Par exemple, Edward, il peut lire dans les pensées. Mais, et sa sœur, entre guillemets, sa sœur Alice, elle peut voir dans l'avenir.
Ouais.
Lui, il est le plus rapide. Donc, il y a toujours, t'as non seulement une compétence magique, mais t'as aussi une compétence physique qui peut être meilleure que les autres. Genre, il y a dans leur clan, il y a un qui est plus fort que tout, tu vois. Et du coup, en fait, on va voir surtout le point de vue de Bella dans les livres, il me semble. Même s'il y a parfois des points de vue sur Jacob, qui est son meilleur ami, qui est en fait un loup-garou, ça fait un triangle amoureux et tout. Enfin bref, anyways. Parfois les points de vue d'Edward, mais c'est souvent les points de vue de Bella.
Bah, c'est un spoil un peu.
C'est un spoil.
Ah, c'est un spoil ?
Parce que moi, j'étais pas sûre, maintenant j'en suis sûre.
Ah oui, merde. Après, Twilight, c'est tellement connu que, genre, ouais, pour moi...
Il y a peu de gens qui le savent pas maintenant.
Mais oui, c'est genre vraiment... Bon, si vous êtes spoilé, à un moment donné, grow up.
Wow.
Non, c'est pas vrai. Mais du coup... En fait, on suit surtout le point de vue de Bella. Et en fait, ce qui est intéressant dans Bella, on en avait un peu parlé un peu avec Eva, c'est le fait que c'est Bella qui va vers Edward, dans le sens où, genre, c'est elle qui veut être un vampire, etc. Et tout. Et en fait, on parle surtout de sa peur de vieillir, parce qu'elle a très, très peur de vieillir. Aussi, le fait qu'elle veut devenir plus forte physiquement, parce qu'elle est forte mentalement, parce qu'en vrai, elle est un peu out de caste comme personne. Et aussi, le sentiment, elle veut se sentir... elle se sent mieux intégrée avec les monstres, entre guillemets, qu'avec les humains, parce qu'avec les humains, elle a toujours le côté un peu awkward. Genre, vraiment, elle se fait pas beaucoup trop de potes, etc. Et tout, et elle en a pas envie aussi.
Pas comme les autres filles.
Ben. Voilà, she's not like the other girls, donc
she's
voilà.
Different.
Et du coup, ça, c'est un peu Twilight. Bien sûr, les livres, c'est mieux décrit... les ambitions de Bella. Dans les films, ce qui est vraiment mis en valeur, c'est plutôt l'histoire d'amour et les tensions là-dessus. Ça, je trouve ça un peu dommage. Mais du coup, après, il y a aussi le côté un peu oriental qui est Vampire Knight. Du coup, Vampire Knight, ça a été créé par Matsuni Ino. Et en fait, on suit l'histoire de Yuki. Yuki, qui est en fait, pas la garde du corps, mais en gros, c'est... Elle doit s'occuper de la sécurité de l'école. Et en fait, l'école, elle a deux classes. Elle a une classe durant le jour, donc le day class, et la classe durant la nuit, la night class. Et en fait, c'est une école qui a pour but de faire cohabiter les vampires et les humains. Du coup, encore une fois, les vampires décrits dedans, c'est des vampires très, très beaux. Voilà, ils sont très, assez beaux pour que ce soit des idols. Donc, voilà, ils sont la day class, donc où les humains sont très, très fans d'eux. Et quand il y a le coucher du soleil, ils essayent de voir, du coup, la night class qui rentre en classe, etc. Et tout. Mais ils ne savent pas que c'est des vampires. D'ailleurs, je trouve ça un peu con, mais bon, c'est pas grave. Hein.
C'est vrai que c'est un peu...
Mais en fait, la cohabitation, il n'y en a pas, puisqu'ils habitent, juste, ils sont prêts géographiquement l'un de l'autre, mais ils ne sont pas prêts physiquement. Genre, il y a toujours le côté un peu star, un peu... Genre, vraiment, les fans, ils se comportent comme des fans de K-pop et tout, donc
ouais,
voilà.
Je vois. Ah ouais, okay.
Et du coup, en fait, Yuki doit faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de... Justement, qu'il n'y ait pas de... trop de relations entre les deux classes, parce qu'en fait, bah, les vampires restent toujours des... restent toujours quand même des créatures qui peuvent faire du mal à l'être humain, parce qu'en fait, de base, l'humain est la proie, le vampire est le prédateur, ça, je vous parlerai plus tard. Et en fait, de base, c'est plutôt la night class qui font des efforts, parce qu'ils ont fait en sorte d'avoir une invention qui fait créer du sang. C'est-à-dire qu'ils ont une sorte de petite pilule qu'ils mettent dans le sang, et quand il se dissout, ça fait comme si c'était du sang, genre si c'était du sang à l'eau. Genre, et du coup, ils essaient de se faire de boire ça alors que c'est pas du tout la même chose. Pareil pour Twilight, à chaque fois, on décrit des vampires qui ne font pas mal à l'humain. Donc, dans Edward, par exemple, et le reste de sa famille sont végétariens, c'est-à-dire qu'ils boivent du sang que d'animaux. Donc, pour eux, c'est être végétarien.
Ouais.
Pour justement ne pas faire du mal à des êtres humains. Et dans Vampire Night, le côté de ne pas faire mal aux êtres humains, c'est en fait de remplacer le sang par des sortes de petites pilules qui apparemment n'ont pas trop de goût, mais qui font l'affaire. Genre, c'est comme si tu mangeais du riz. Vrai, pour eux, c'est vrai, du riz blanc, quoi. Et en fait, du coup, on suit l'histoire de Yuki. Yuki, en fait, a été sauvée par Kaname. Kaname, qui est en fait le vampire alpha. Parce que, en fait, c'est l'un des seuls vampires au sang pur. Parce que t'as en fait dans Vampire Night, t'as plusieurs types de vampires. T'as le level A, donc les sang purs. T'as les level B, c'est les aristos. Les level C, c'est des vampires un peu normaux. Les level D, c'est des humains qui ont été transformés en vampires et qui en fait vont devenir des level E, c'est-à-dire des bêtes assoiffées de sang. Voilà.
Ok, est-ce qu'il y a vraiment une caste, une société
Exactement, par rapport au sang. Et du coup, Yuki est tombée amoureuse de Kaname parce que Kaname est son sauveur. Ça, c'est dans l'épisode 1. Voilà, c'est dans l'épisode 1. Je ne spoil pas.
Si vous regardez Vampire Night,
il n'y a pas de spoil parce que c'est littéralement l'épisode 1. Et en fait, il y a Yuki qui est tombée amoureuse de Kaname parce que Kaname l'a sauvée d'un autre vampire qui était un level E et qui allait la tuer et qui a sûrement tué toute sa famille, etc. Parce qu'en fait, Yuki n'a pas des souvenirs que... En fait, elle a... Son premier souvenir, c'est se faire sauver par Kaname. Mmh. Et du coup, Kaname, c'est celui qui tient les vampires dans sa poche parce que si, en fait, les vampires ne veulent pas, mais ils suivent leur leader qui est justement Kaname. Et en fait, il y a quelqu'un qui l'aide à surveiller tout ça, c'est Zero, qui est en fait l'ami et surtout le frère d'adoption de Yuki, qui lui était un rescapé de chasseurs de vampires. C'est-à-dire que. En gros, sa famille était chasseur de vampires, mais ils ont été tous exterminés par des vampires. Du coup, Zéro déteste les vampires. Donc, il y a Yuki qui est en mode « Ah non, il faut que les humains collaborent, donc moi, je vais faire en sorte que tout se passe bien. Bah, » Zéro, il est en mode « En fait, je sais que c'est des prédateurs, il reste des prédateurs. Du coup, moi, je les surveille, justement. » Tu vois, genre, c'est pas la même chose. Et du coup, c'est hyper intéressant. Les openings, claque. Genre, c'est trop, trop bien. Mais ça aurait pu... Mais en fait, là, après, je pense, malheureusement, pour parler bien... des thématiques de vampires dans les romances, faudra un peu spoiler. Du coup, je suis désolée. Si vous voulez pas être spoilée, pas désolée, spoil. En gros, moi, genre, je me suis surtout intéressée sur le fait que les romances avec les vampires, c'est hyper, hyper apprécié par le grand public. Et notamment, genre, le schéma répétitif sur beaucoup, beaucoup d'œuvres connues, c'est le mec, c'est un vampire. La meuf, c'est une mortelle. Souvent, c'est des relations hétéros, bien sûr. Et ça, c'est important parce que c'est pas, genre, c'est pas anodin que c'est fait comme ça. Bien sûr, il y a des exceptions. Il y a Chibi Vampire où, genre, justement, c'est la fille qui est un vampire. Mm-hmm. T'as aussi Lesbienne Vampire où là, bah, c'est pas une relation hétéro. Et bizarrement, c'est des vampires avec vampires. C'est pas vampire avec mortelle. Et t'as aussi Rosaria Vampire où, genre, c'est la fille qui est vampire. Et après, t'as aussi Wet Blood, où c'est la fille aussi qui est un vampire, et même un vampire au sang pur. Parce qu'il y a beaucoup de sang pur repris dans ce genre de d'œuvre. Genre, à chaque fois, c'est un peu comme ça et tout. Et du coup, moi, je me suis dit, mais pourquoi ça plaît autant? Et surtout, qu'est-ce que ça traduit, en fait, comme dynamique de relation? Et en fait, déjà, genre, je trouve que le vampire, c'est un peu le parallèle au CEO. Bah, par exemple, tu avais parlé de 50 nuances de Grey, là. putain, je voulais faire à l'anglais, mais je m'en souviens plus. 50 nuances de Grey, pour moi, c'est un parfait parallèle. Genre, je trouve que le vampire, c'est la version fantaisique du grand patron hyper riche, hyper mystérieux, mais qui n'est pas disponible émotionnellement parlant et tout. Genre, pour moi, il y a un peu un parallèle là-dessus.
C'est un peu un fantasme, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est totalement un fantasme. Et en fait, parce que ça répond aux besoins de l'héroïne, c'est-à-dire déjà toujours la peur de la mortalité. Mm-hmm. C'est-à-dire, on a tous peur de la mort, et le vampire, ça représente justement une solution. En fait, ça représente littéralement l'immortalité. Genre, t'es en mode, bah ça, je sais pas, genre c'est un sorte d'obstacle contre ta peur, contre la mort.
Tu vois. Ça représente un amour qui va durer pour l'éternité.
Exactement, quoi. L'amour inébranlable, finalement.
Mais c'est ça, du coup, y a ce truc-là qui est un peu...
Parce que les humains, c'est des menteurs, quoi.
Non, enfin, bref. Les humains sont pas éternels, alors que les vampires, si.
Si. Et leur amour, si aussi. Genre, par exemple, le Dracula, il me semble que genre, c'est pas une histoire. Il y a pas une histoire d'amour.
Musical, si.
Oui, si. Il y a une histoire d'amour dans. Enfin, la version romantique que j'avais de Dracula, c'est que en fait, il aimait éperdument sa femme et que sa femme a été. Voilà quoi. Du coup, il y avait aussi le côté amour inébranlable, et c'est aussi toucher un amour inaccessible aussi. Genre dire mais on est la seule à pouvoir toucher ce cœur de glace. Qui, même s'il y a l'immortalité, il est touché par notre cœur de mortel.
Même si tout nous sépare.
C'est ça. Et on s'aime, en fait. On s'aime, et en fait, je suis la seule et l'unique. Et en fait, ça, c'est pour ça, en fait, que c'est autant apprécié, ce genre de romance. Hein. C'est parce que, encore une fois, au côté inébranlable, ça veut dire qu'il t'aime et qu'il t'aimera par-delà la mort. Aussi, le fait que, genre, c'est puissant, que, genre, s'il y a un côté inaccessible, genre, c'est ça qui répond un peu à ce genre de fantasme. Mais, en fait, il y a aussi le côté un peu. Et ça, ce que j'aime pas trop, c'est le côté dominant et soumis. C'est-à-dire que, encore une fois, les vampires sont considérés comme des prédateurs dans les histoires. Et surtout, le risque qu'ils peuvent te tuer. Parce que dans Vampire Knight et dans Twilight, c'est ça le principal aussi. C'est que, par exemple, Edward, lui, il a peur de tuer Bella. Mm-hmm. Parce que son sang est addictif. Parce qu'il y a le côté de... Il n'y a pas n'importe quel sang des êtres humains. C'est ça. Mais même pire, c'est qu'il y a, par exemple, Yuki, dans Vampire Knight, elle a un sang sucré. C'est-à-dire qu'elle a un sang qui est particulièrement aimé par les vampires.
Okay.
Donc il y a aussi ce côté-là et tout. Et que t'es en mode, en vrai, ça reste toujours un prédateur. Genre, comment on peut se mettre en couple avec quelqu'un qui peut potentiellement te tuer? Ça aussi...
Toxique, hein.
Moi, je trouve que c'est un peu... relation un peu manipulée. Enfin,
il y en a un qui a l'ascendant sur l'autre et qui a plus de pouvoir sur l'un que l'autre. Du coup, c'est vrai que ça démontre aussi... c'est un peu compliqué, je pense, de montrer des exemples de relations saines avec des histoires de vampires pour toutes ces raisons-là. Ah, en fait.
Et le côté aussi Edgecape. Ça, c'est toujours la vraie question.
Parce que souvent, les vampires, par exemple, dans Twilight, Edward, il est devenu un vampire à genre 17-18 ans. Mais le truc, c'est qu'en attendant, ça fait 104 ans qu'il est là. Du coup, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il a... Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il a 17-18 ans? Je sais pas, Mathieu, si t'as une...
Mais il a pas 17-18 ans. Il a 104 ans, quoi.
Mais c'est pas un papy dans sa tête non plus. En fait, je crois que c'est un peu, entre guillemets, justifié dans le roman en disant non, mais il a pas 104 ans, ça fait juste 104 ans qu'il a 17 ans. Du coup, il est bloqué à 17 ans depuis 104 ans. Mais
c'est tellement pas vrai.
Mais en même temps, c'est pas vrai. Je trouve que c'est des justificatifs qui sortent pour que ça fasse moins bizarre, mais c'est pas... Moi, j'aime bien Twilight, hein, mais c'est vrai qu'il faut admettre qu'il y a des choses qui sont pas... Bon.
Mais surtout l'edge gap, c'est toujours quand c'est le gars qui est un vampire. Parce que moi, dans les trucs où les meufs sont des vampires, il n'y a pas ce problème d'edge gap parce que littéralement, elles ont vraiment 17 ans. Ça fait pas 104 ans qu'elles ont 17 ans.
Elles sont nées vampires.
Elles sont nées vampires. Ouais. Et en fait, à partir de 17 années, elles rencontrent leur crush ou des trucs comme ça, tu vois.
Parce que ça, c'est autre chose aussi. Tu as certaines versions des vampires où tu peux devenir vampire qu'en étant transformé en vampire. Et tu as des trucs de vampires aussi où tu as des lignées. Ils peuvent avoir, c'est un peu comme une espèce à part, en fait, où t'as des, ils peuvent se marier entre eux, avoir des enfants, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas de... Par exemple, dans Dracula, c'est vraiment pas ça. Dans Entretien avec un vampire de Anne Rice, dont j'ai pas parlé vraiment pour le moment, c'est ça aussi. Tu peux pas vraiment... faire un enfant avec un vampire. Tu peux transformer un enfant en vampire, mais tu peux pas... procréer, quoi. Du coup, il n'y a pas cette histoire de sang pur, de caste, de classe sociale, etc. C'est plutôt les vampires, enfin, d'entretien avec un vampire, c'est plutôt les vampires qui se cachent parmi les humains pour monter socialement dans la société humaine, déjà, et pour profiter d'eux, en fait, et kiffer leur vie éternelle, j'imagine. Donc, c'est vrai que c'est des choses un petit peu différentes. Mais, ouais. Mais pour revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur Twilight, sur le fait que les vampires sont un peu différents dans Twilight et dans le reste. Et c'est parce qu'en fait, quand Twilight est sorti, il y a beaucoup de personnes qui ont été assez déçues et qui n'ont pas apprécié comment étaient représentés les vampires dans Twilight. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, mais dans Twilight, bah, Edward, il n'est pas du tout assertif envers Bella. Au contraire, il la fuit parce que, entre guillemets, il est attiré par elle, mais il ne veut pas parce que, bah, il sait qu'il peut la tuer à tout moment. Il se méfie énormément de lui-même et des autres vampires. Il ne veut pas lui faire de mal, je ne sais pas quoi. Du coup, il ne veut vraiment pas avec elle au début. Sauf qu'en fait, c'est Bella qui lui court après. C'est Bella qui cherche à obtenir quelque chose de lui. C'est Bella qui va vers lui à plein de niveaux, en fait. Et ça, c'est vraiment différent d'autres œuvres de vampires, par exemple, ou je sais pas, Dracula, ou même Entretien avec un vampire, ça marche aussi, où les vampires sont représentés comme un peu la chose qui va te corrompre.
Les chasseurs,
les chasseurs, la chose où tu veux pas te laisser tenter, mais en fait, il va te mordre le cou, je sais pas quoi, enfin, un truc comme ça. Alors que là, dans Twilight, c'est pas vraiment ça, vu que c'est Bella qui va courir après, c'est entre guillemets, corruption, c'est même pas vraiment une corruption. Entre guillemets, c'est limite elle qui va corrompre Edward.
Ouais.
Plus ou moins.
Mais ça, c'est vrai. Et en plus, il y a eu des passages dans les livres où c'est pas top parce que Bella, elle est en mode. Elle est un peu en mode. J'ai envie d'avoir des relations avec toi. Et que Edward a dit, bah non, pas avant le mariage, parce que lui, il est d'une autre époque. Tu dis, allez, viens. c'est un peu bon.
Mais d'un autre côté, il y a le truc de Age Gap où il a genre 130 ans. Ouais, quoi, donc
mais encore une fois, genre Bella.
C'est inutile, hein, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais ils auraient pu faire comme ce que tu as dit, juste dire qu'il a vraiment 17 ans, et puis voilà, fin de l'histoire.
Mais encore une fois, c'est parce que pour eux, les vampires, ils se transforment. Avant les vampires, c'était des humains. Du coup, ça pouvait pas marcher. Et en fait, dans Twilight, t'as pas le droit de transformer un enfant en vampire. Du coup, c'est à cause de ça. Et en vrai, en plus, il y avait un moment qui m'avait grave choqué dans Twilight et où ils mettent en avant cet age gap. C'est quand il y a Edward qui montre pour la première fois sa maison à Bella. Et qu'en fait, il y a un énorme tableau où en fait, c'est tout leur.
Un chapeau.
Leur chapeau de diplôme. Qui est en mode, regarde, c'est tous nos diplômes.
Il y en a genre 50.
Ouais, c'est ça. T'es en mode,
T'es en mode, frère, peut-être il serait intéressé à un moment donné. Moi, je comprends même pas pourquoi il est encore lycée, tu vois. Genre, pourquoi il peut pas juste travailler, tu vois. Genre, t'as pas du tout. Enfin, c'est trop bizarre. Mais donc là, sur le côté edge gap, c'est pas très appréciable. Et encore une fois, moi, je trouve ça pas très bien. Genre, je sais qu'il y a aussi beaucoup de romans, même sans vampires, où ça parle de mecs toujours plus vieux.
Ouais.
Mais moi, je trouve que ça conditionne un peu les jeunes filles à avoir des relations avec des hommes plus vieux. Parce qu'apparemment, ils sont plus matures. Mais crois-moi, genre, s'ils voulaient être avec toi alors que t'es plus jeune, c'est parce que c'est peut-être des gens pas très bien, tu vois. Mais bon, c'est pas
faux. C'est pas faux.
Moi, tant qu'il n'est pas riche, c'est un grand nom pour moi. Mais en fait, donc ça, genre, du coup, on avait un peu parlé de la notion de proie et des prédateurs, du fait que, genre, c'est une relation amoureuse entre prédateur et proie. Genre, pour moi, c'est aussi bizarre. Et aussi le fait que les vampires, à chaque fois, moi, les vampires, je ne sais pas pour vous, mais je ne sais pas genre, si c'est une race à part entière, c'est-à-dire que c'est vraiment une race en dehors de l'être humain, ou si ça faisait partie de la branche d'être humain, mais que ça a un peu muté ou des trucs comme ça, tu vois. Après, c'est parce que aussi, genre, j'ai la version de vampires qui peuvent être un vampire dès la naissance, tu vois.
Oui, c'est ça. Pour moi, il y a plusieurs manières de voir. Soit t'as des vampires qui, genre, c'est vraiment une espèce à part. Soit t'as des vampires, c'est des humains, mais qui ont été un peu corrompus par le diable, presque.
Ouais, c'est ça.
Et puis, du coup, c'est juste, ils représentent le mal en personne.
Qui se sont échappés de la voie de Dieu et tout.
Ouais, c'est ça. T'as ça aussi. Du coup, c'est. Après, ils se mordent entre eux. Ça me fait penser aux démons dans Demon Slayer, en fait. Et ça me fait penser aussi vite fait. Enfin, j'allais dire les ghouls dans Tokyo Ghoul, mais ça, c'est encore autre chose. Parce que pour moi, ça, c'est un peu des dérivés des vampires aussi. Genre, sauf que les ghouls, elles boivent pas du sang dans Tokyo Ghoul, mais elles mangent des gens. Il y a aussi ce côté où c'est moins sexy de manger des gens, alors que boire du sang, t'as ce côté un peu plus sensuel aussi.
Ouais.
Et tu poses tes lèvres sur le cou de la personne, t'as ce truc un peu plus. Et tu rigoles, mais c'est vrai.
Oui, c'est vrai.
Et surtout que.
C'est plus sensuel parce que voilà, mais alors Tokyo Ghoul, tu bouffes quelqu'un, c'est pas pareil. Mais aussi dans Tokyo Ghoul, c'est une espèce à part, genre.
Et dans certaines versions, pour les morsures de vampires, ils injectent un sorte de venin qui fait du bien à la personne. Dans Shadowhunter, Shadowhunter, c'est un truc encore de fantasy, où les vampires, ils sont décrits... déjà, ils peuvent se transformer en êtres humains. Enfin, ils peuvent... En fait, c'est des humains qui ont été transformés par des vampires. Et en fait, leur morsure, ça s'appelle un sort de... C'est un venin qui peut être addictif. Et du coup, il y a des humains qui viennent exprès pour, pour donner du sang de manière directe, parce que de base, ils ont des poches de sang, mais ils peuvent donner du sang direct pour avoir du venin, etc., parce qu'ils deviennent des drogués de venin de vampire. Voilà. Donc ça, c'est super. Encore une fois, moi, je trouve ça pas très cool. Et il y a aussi le côté... bon, là, par contre, malheureusement, ça va être un énorme spoil de Vampire Night. Je suis désolée si vous voulez pas écouter ça. Dommage pour vous, à un moment donné. Non, mais en vrai, parce que c'est hyper important.
C'est pas très grave sur spoiler Vampire Night, aujourd'hui, je pense.
Et Vampire Night, genre, en gros, comme je vous avais dit, il y a un côté caste, il y a un côté de sang pur, etc. et tout, donc un peu de racisme et tout. Enfin, bref, anyways. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que, en fait, comment ils font le sang pur pour garder un sang pur? Eh ben, ils font de l'inceste. Et ouais, trop trop bien. Et l'inceste, ça revient beaucoup dans les romances de vampires. Je vais crever. Il y avait un webtoon où ça en parlait. Et du coup, ça disait non, 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 nous ne voulons pas de l'inceste. Alors que dans Vampire Night, je m'en souviens que, en fait, Kaname, pour moi, c'était mon préféré. C'était mon bébou. Parce qu'en fait, il y avait une histoire, il y avait un triangle amoureux entre Zéro, Zéro et Kaname. Ouais. Et du coup, moi, Kaname, pour moi, il était le plus beau. Et genre, il est riche, quoi. Donc, je vois, en fait, girl, fonce. Et en fait, il y a un épisode où il la mord enfin. Genre, je sais pas comment ça se fait, mais quand il la mordait enfin, je suis ah, mais trop, ah, et tout. Et là, et du coup, en fait, après, il y avait Zéro qui a dit, mais je vais le tuer, il a pas le droit de te mordre. Alors que le mec, il.
Non, mais attends, attends. Oui. C'est un red flag, ce mec.
Non, mais.
Ah si.
Mais oui. Ah, oui. Non, en fait, oui. Le principe de toute façon, je vais pas mentir, le principe de relation entre une mortelle et un vampire, c'est red flag déjà de base. Oui. Le côté encore une fois prédateur, le edge gap, rien ne va dedans, tu vois.
Non mais.
Et du coup, en fait, elle a dit à Zéro, non, ne fais pas ça, parce que Kaname est mon frère. Et quand on a su ça, on était en mode, comment ça? Et en fait, bon...
Quoi?
Oui, c'est quoi son frère. Et quand j'ai appris ça, quoi, j'ai jamais eu autant le seum de toute ma vie. Vraiment, dans Vampire Night, je pense qu'il y a deux déceptions. La première déception, je sais pas. Mais la deuxième déception, en tout cas, c'est sûr, c'est le trope inceste. Genre, il y a eu un trope inceste.
Ah non, j'en reviens pas, là, moi. Il y a le trope inceste. Oh non!
Eh oui, mesdames et messieurs!
Non, mais ça, je vais le dire, je pense que les gens qui ont écrit Vampire Night ou les gens qui ont écrit des trucs d'inceste avec des personnages de vampires, pour moi, c'est un moyen de véhiculer leur fantasme en fait.
Mais tellement.
C'est absolument pas nécessaire!
Mais non! Mais oui! Mais tellement, Kaname, il avait tout du prétendant!
Mais oui!
Et tu sais, le pire que ça, c'est que du coup, oui, véhicule des fantasmes, mais comment ils le font pour le justifier? Comme ils justifient quand ils disent « Ah, mais la fille, elle a l'air d'avoir 8 ans, mais t'inquiète, ça fait depuis 1000 ans qu'elle a 8 ans. » Et bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent « Bah, on est des vampires, on a d'autres codes moraux que les êtres humains. » Et c'est pour ça aussi que je voulais vous demander votre avis si c'est une race à part entière, parce que si c'est vraiment une race à part entière, c'est vrai qu'ils n'ont pas les mêmes codes moraux. Mais est-ce que, comme ils ressemblent à des humains, ils doivent absolument respecter les codes moraux des êtres humains, tu vois?
Mais le truc, c'est que, ok, c'est une race à part entière des humains, mais d'un autre côté, ils vivent avec des humains aussi.
Ouais, c'est ça.
Même s'ils boivent du sang, bah, ils se comportent comme des humains.
Mais c'est pour leur survie, tu vois, ça.
Et voilà, ils sont en contact d'eux un peu tout le temps. Et puis même, c'est qui les mangas? C'est des humains aussi.
Ouais.
Donc,
ouais, à un moment
donné... que Zéro, tu Kaname à la fin et qu'il sort avec l'autre, là.
Alors.
Non, c'est bon.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est grâce à Mélodie. Merci beaucoup, Mélodie, parce que c'est elle qui m'a raconté la fin du manga. Parce que moi, je regardais que l'animé. Il n'y avait pas de la fin de l'animé. Et l'animé, il n'y a pas vraiment une vraie fin et on ne comprend rien en plus parce que ce n'est pas très bien adapté du manga. Du coup, Kaname, on apprend que c'est son frère. Et genre, vraiment, je m'en souviens que dans l'animé, je vois, mais en fait, tu ne peux pas dire ça. Et genre, en plus, Yuki, elle était désemparée parce qu'elle dit, mais putain, je suis amoureuse de mon frère. Et du coup, Yuki, elle a dit, mais en fait, c'est horrible. On n'a pas le droit de faire ça. Elle a dit, mais on se comporte comme des. Et après, elle dit, comme des bêtes. Il a dit ça, il dit, ouais, on se comporte comme des bêtes et alors on est des vampires. Et vraiment, il y a même ses camarades.
C'est un red flag tellement.
Il y a même ses camarades de Kaname qui le regarde en mode, mais frérot, genre, tu fais quoi
soeur,
genre. Et du coup, et genre, en plus, il transforme Yuki qui s'est évanoui du choc. Hein. Et Kaname, il a dit, bah quoi, arrêtez de faire les innocents pour garder un sang pur, faut se marier entre sang pur. Et c'est pas le pire dans l'histoire, parce qu'en fait, les sœurs, les parents de Kaname et Yuki sont aussi reliés de la même.
Mais non.
Je vous.
C'est trop. C'est Kaname qui dit comme des bêtes. Comme ça.
Et après, c'est sa troisième version VF. Et en fait, c'est pas sa sœur. C'est pire que ça. C'est parce que Kaname n'est pas le frère.
Quoi ?
En fait, c'est bien le corps de Kaname, donc c'est bien le corps du frère, mais l'esprit, c'est l'ancêtre de Yuki. Genre, c'est son arrière-grand-père. Vampire Knight, j'aimais bien le début, et quand il y a eu le côté de frère et sœur, je suis ah, et c'est devenu moins bien.
Bah, je pense que Vampire Knight, c'est un bon exemple de pourquoi les romances de vampires, ça peut être très...
très sale.
Et très sale et très malsain, en fait, et que ça peut véhiculer des choses vraiment pas ouf du tout.
Ouais.
Ah non.
C'est pas forcément des choses qui sont propres aux vampires, mais c'est des choses qui vont être appliquées aux vampires, je pense que moi, c'est pour faire véhiculer des fantasmes.
C'est ça. Oui, les fantasmes d'être chassé, et encore une fois aussi le fantasme de l'amour inébranlable. Hein,
et ça aussi sur
qui va contre nos instincts humains ou vampires, tu vois. Donc voilà.
Je comprends.
C'est bon, j'ai terminé ma partie. Super, très longue.
Pas tout, t'inquiète pas.
On a bien voyagé là.
On en a fait des tours du monde. Oh là là. Bon Mathieu, toi j'ai vu que tu as quand même lu. Tu dis que tu ne sais rien à propos des vampires, mais tu as quand même lu quelques œuvres.
Non mais moi je sais quasiment rien par rapport aux deux autres. Hein, on va pas se mentir. Mais j'ai quand même vu un film sur les vampires, un très bon film d'animation, qui s'appelle Vampire Hunter D, Bloodlust, qui est un film d'animation sorti dans les années 2000 et qui a été réalisé par Studio Madhouse, un très grand studio d'animation. Alors pourquoi j'en parle ? C'est parce que je pense que c'est un très bon film, qui n'est pas si connu que ça, voire très très peu connu. Et bon voilà, bah, je vais juste raconter l'histoire, après le scénario n'est pas forcément très important. Donc ça se passe dans un futur lointain, donc c'est ça qui est très cool, c'est qu'il y a une ambiance très gothique, très Moyen-Âge. Mais en même temps, on est dans le futur, donc bon alors, dans un futur post-apocalyptique, parce que les humains, on se rend compte qu'ils sont allés dans l'espace, sauf que, en fait, dans des scènes, on se rend compte qu'ils sont allés dans l'espace, mais que ça a échoué. Bon bref, c'est un futur très lointain, mais on a l'impression qu'on est au Moyen-Âge. C'est très bizarre. Donc, ils se déplacent à cheval, mais en même temps, ils ont des pistolets laser. Voilà.
Ok.
Et donc, c'est dans un monde où il y a des vampires et des chasseurs de vampires, et notamment notre héros qui s'appelle Dee, qui est un vampire. Donc, c'est ce dont vous avez parlé très rapidement, c'est le croisement entre un vampire et un humain.
Mm-hmm.
Voilà. Donc, il peut survivre au soleil, contrairement... Donc, dans cet univers, les vampires ne survivent pas au soleil. Donc, lui, il peut survivre au soleil, mais il doit manger, enfin, il doit boire du sang pour être plus fort. Voilà. Et donc, alors, je pense que Vampire Hunter D, ça doit être probablement une série, et que ça doit être une sorte de... Je sais pas comment on peut dire, une sorte d'hors-série dans la série, justement. Mm-hmm. Et on suit l'histoire, donc, de Dee, qui est donc un chasseur de vampires, et qui a pour mission de récupérer une jeune fille qui a été capturée par un vampire, justement.
Okay.
Histoire classique. Sauf que le twist, c'est qu'on se rend compte que peut-être que cette jeune fille, elle est partie de son plein gré, en fait.
Mmh.
Et que justement, elle a même pas été transformée, elle est même pas encore sous le charme, mais qu'elle a quand même décidé de partir parce qu'elle serait amoureuse de ce vampire. Bon. Donc, l'histoire n'est pas forcément très intéressante. Ce qui est vraiment très cool dans ce film d'animation, c'est vraiment les graphismes, l'animation de manière générale. L'univers est incroyable, justement, cette fusion entre gothique et futur est, moi, je trouve, génial. D'un point de vue juste mise en scène aussi, il y a des moments trop cool. Les scènes au tout début, par exemple, en fait, on est dans une ville et on se rend compte que sur tous les toits des villes, il y a plein de croix pour protéger des vampires, et pas seulement des vampires, parce qu'il y a aussi des loups-garous, bon, plein de trucs en rapport avec les vampires. Et on entend une diligence qui arrive et toutes les croix commencent à se briser les unes, enfin, à se tordre les unes après les autres, et c'est très, 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 très cool. Et plein de... Comment dire ? Ça fait très, c'est ce que tu avais dit tout à l'heure, ça fait très graphisme des films d'animation des années 90. Mmh. Ça fait très adulte, je sais pas comment le dire autrement. C'est vraiment à l'opposé des shoujo grands yeux, à l'opposé des shonen très, je sais pas comment dire, très lisse. Mmh. Ça fait très adulte et c'est vraiment très très cool à regarder. Donc en plus ça dure pas très longtemps, c'est qu'une petite demi-heure, une heure et demie.
Ah oui,
demi-heure.
Si je dis une demi-heure. Une demi-heure, ouais. Quoi.
Et donc oui, je vous conseille vraiment de regarder, c'est assez facile à trouver sur internet. Et franchement, on voyage en regardant ça, c'est vraiment très sympa à regarder.
J'ai vu des extraits,
ouais, pareil.
Ça avait l'air vachement bien.
C'est super beau. Bien. Il y a eu un moment où, genre, j'ai vu surtout le moment où la meuf, elle part, on la prend dans les bras, mais on ne voit pas qui la prend dans les bras. Et du coup, le mouvement des cheveux est tellement beau. Enfin bref.
Non, et puis même, c'est très, j'allais dire, cinématographique.
Exactement.
Le vampire, il tient toujours ses ailes. Voilà, bon, alors là, je le montre aux autres, donc vous n'allez pas comprendre. Mm-hmm. Quand il est... près de la meuf, justement.
Là, il est en train de...
Il la tient tout le temps comme ça. Il y a toujours, tu sais, son aile qui part comme ça, comme une cape autour. Enfin, c'est très, très cool.
Okay, voilà. Je comprends. Ça a l'air très beau, en tout cas.
Et l'autre auquel je peux parler, mais moi, je pense qu'Aïva va peut-être plus en parler que moi, c'est...
T'as pas mal lu aussi, hein. On peut en parler tous les deux.
Hashtag DRCL, ouais. Midnight Children. Je pense qu'il faut que Yael lise ce truc.
Hashtag DRCL, j'en avais déjà parlé dans cette émission il y a quelques temps, dans la partie dernière lecture d'une autre émission. Et c'est une adaptation du roman Dracula dont j'ai un peu parlé tout à l'heure. qui est faite par Sakamoto Shinichi, donc qui a fait plein de mangas, qui est un auteur super bien, qui a fait Ascension aussi, dont on a déjà un petit peu parlé dans, il me semble, la toute première émission de Who Critics. Et donc, en fait, la petite différence avec hashtag DRCL, c'est que ça se passe à peu près à la même époque et au même endroit, c'est-à-dire en Angleterre, à la fin du 19e siècle. Mais les personnages sont à peu près les mêmes que dans le roman, mais ce sont des enfants. Et ils sont un peu sous la malédiction de Dracula. Globalement, c'est ça qui se passe. Il y a plein de trucs étranges qui leur arrivent. Ils sont corrompus et tout. Enfin, bon. Je pense que la force de ce manga, c'est le dessin qui est absolument magnifique. Là, pour le coup, je pense que ça met tout le monde d'accord. Le dessin est vraiment super beau. La mise en page, elle est trop cool. C'est vraiment bien.
Ah, c'est incroyable. Franchement, ouais. Moi, je trouve que c'est du jamais vu. Hein.
Ouais. C'est vraiment incroyable. Je suis totalement d'accord. Et voilà, pour moi qui aime beaucoup le roman Dracula, bah, moi, j'adore lire ça parce que juste, je redécouvre ce roman que j'aime beaucoup dans un autre contexte. Et je trouve que, c'est une bonne adaptation dans le sens où ça garde les choses importantes au récit de Dracula, mais ça en change d'autres sans pour autant changer le propos de base ou l'ambiance de base du roman, on va dire. Maintenant, c'est ce qu'on disait aussi, il y a deux, trois petites choses qui me déplaisent un petit peu. Plus j'avance dans la lecture, plus ça me déplaît, en fait. Pas parce que le dessin est de moins en moins bien, c'est parce qu'en fait, bah, les personnages, ce sont tous des enfants. Et comme je l'ai dit, Dracula, ça va aussi aborder des thèmes vachement autour de la sexualité, du fait de corrompre les autres, etc. Du coup, bah, tu te retrouves avec des enfants qui se retrouvent dans des situations sexuelles. Ça ne devrait pas arriver, quoi. Et à lire, c'est un peu... Ouais, ça me dérange un petit peu, quoi. Donc voilà. Je ne sais pas si Mathieu, tu as...
Bah, moi, ce que je vais redire au niveau graphique, c'est... Moi, je trouve ça... Mais quand je dis que c'est incroyable, franchement... Je crois que, enfin, je trouve que ça repousse les limites encore de ce qui existait. Enfin, je trouve ça vraiment incroyable. Et puis, au-delà des dessins, c'est la mise en scène est vraiment très cool, justement. Il y a plein de moments où ça fait très mystique. On comprend pas trop ce qui se passe, mais justement, l'aspect, enfin, la magie de Dracula. Enfin, Dracula, c'est un être d'un autre monde et c'est vraiment très bien transcrit. Il se passe des choses, mais en fait, personne ne comprend trop ce qui se passe et c'est très cool. Après, un autre point noir que moi, je veux évoquer, c'est que... déjà, c'est clairement pour les adultes, je pense.
Oui, oui. Totalement.
Oui.
Premièrement, pour la violence et aussi pour... c'est assez complexe à suivre. C'est vraiment très difficile à suivre. Moi, il y a des moments où, franchement, j'ai rien compris. Ouais. Je dirais que c'est peut-être l'autre point faible du manga, c'est qu'il y a des fois où c'est vraiment trop confus et on ne comprend absolument rien de ce qui se passe. Et aussi, peut-être un dernier truc, c'est que moi, je ne sais pas du tout où ça va.
Ouais, pareil.
Je ne comprends pas... Ouais, je ne sais pas trop où ça va.
Après, j'imagine que ça va aller jusqu'au fait d'essayer de... Le manga n'est pas fini pour le moment, du coup, on n'a pas tout lu, on ne sait pas trop où ça va aller. Mais j'imagine que ça va suivre peut-être le roman, que ça va aller jusqu'à essayer de neutraliser Dracula, quoi. Mmh. Enfin, j'imagine que ça va vers ça, parce que sinon, je ne sais pas trop. Mais en même temps, c'est vrai qu'il se passe une tonne de trucs dedans.
Ouais.
C'est pas sûr qu'on en arrive jusqu'à là. Mmh. Et oui, c'est vrai que des fois, c'est vraiment compliqué à suivre. Enfin, c'est vrai que quand on a lu le roman, il y a des choses qui sont plus simples à comprendre. Parce qu'on comprend à quoi ils font référence. Des fois, tu comprends pourquoi certaines choses se passent comme elles se passent. Mais bah, en fait, c'est pas expliqué dans le manga. Du coup,
En tout cas...
C'est dur à suivre.
Quoi qu'il arrive, je pense que c'est... Enfin, franchement, c'est des mangas qui sont en train de sortir. Je pense que c'est un des meilleurs. Mm. Franchement, enfin... Moi, je vois rien de ce qui se rapproche de ça. Et je pense que si ça part pas trop en cacahuète au niveau de ce qui se passe pour les enfants, je pense que quand une fois que ce sera fini, ce sera un classique. Vraiment, moi, c'est vraiment ce que je pense. Hein. Je trouve que c'est vraiment incroyable, en fait. Ouais. Après réflexion, je connais rien qui ressemble à ça. Je trouve que je connais pas aussi bien les vampires que vous deux, mais je trouve vraiment que c'est incroyable, en fait.
Ouais,
c'est juste vraiment dégueulasse. Voilà.
Ouais, c'est vraiment dégueulasse. Et t'as des concepts assez malsains, quand même.
Bah, enfin, bon, moi, je comprends qu'il y ait des trucs malsains, mais il y a des trucs que c'est trop. Enfin, ça sert à rien.
Oui.
Mmh. Ah, c'est...
Ouais, c'est ça. Quand t'as des concepts massins, t'as des trucs qui sont vraiment pas nécessaires, qui sont là, tu comprends. Des fois, tu comprends pas ce qui se passe, c'est des gens qui se transforment en trucs, t'as des. Bon, c'est un peu.
Ouais, bon, après, voilà. Donc, si vous êtes sensible aux trucs qui arrivent aux enfants, faut passer son chemin, je crois.
Ouais, c'est ça.
Même si moi, ça m'a beaucoup. Enfin, j'ai beaucoup arrêté parce que je comprenais rien, à chaque fois, j'ai eu envie de relire.
Ouais.
Pour moi, c'est la preuve que c'est vraiment bien, c'est que. En fait, c'est tellement intriguant, je sais pas.
Il y a Fifi prend des yeux dedans.
Un peu.
Bah en vrai, moi, ça me fait rappeler. En fait, il y a une œuvre qui s'appelle Anne with a E, qui en fait est une référence à Fifi Brindacy, mais en gros, ça raconte une meuf qui est hyper intelligente dans une époque où Les gens pensaient que les femmes ne servaient qu'à pondre des enfants. Du coup, et c'est vraiment une rousse avec des nattes, avec des taches de rousseur. Du coup, ouais, on l'appelle la carotte et tout. Du coup, je pense que ça fait... Là, le personnage fait un peu...
C'est vrai que ça y fait penser. Bah ouais, et puis aussi, ce qui est sympa dans hashtag DRCL, c'est que Midnight Children, c'est que ça... Bah, ça aborde des thèmes aussi qui sont assez actuels. Tu vas avoir des trucs autour du féminisme, ce genre de choses. Ouais. Je pense aussi autour de... Je pense autour de la transidentité.
Ah bah, et, je sais pas.
Enfin, pas vraiment, c'est un petit peu flou. Honnêtement, c'est un peu flou.
Ouais.
Mais t'as toutes ces questions-là qui sont abordées explicitement, forcément. Et enfin, en tout cas, c'est représenté. Et il n'y a pas à lire entre les lignes, quoi. Enfin, ça me paraît assez évident. Donc voilà. J'ai déjà un petit peu parlé de l'entretien avec un vampire de Anne Rice, qui a été publié en 1976, qui est un autre, je pense, un autre monument de la littérature à propos des vampires. Donc c'est un roman, mais il a été adapté. Enfin, il y a une série de livres après qui a été faite. Il y a un film, il y a des séries télévisées, ce genre de choses. Et ça, c'est une représentation un petit peu différente des vampires. C'est pas une adaptation de Dracula. Ça raconte une histoire complètement différente. Mais voilà, ça représente des choses un peu différemment. C'est très bien écrit, je trouve. Il y a des trucs homosexuels qui sont assez évidents aussi. On peut aussi vite fait parler de La Morte Amoureuse, qui est une nouvelle de Théophile Gautier, qui est parue en 1836, du coup, avant Dracula. Donc c'est vraiment pour montrer que c'est pas Bram Stoker qui a inventé les vampires. Hein. Du coup, ça, pour La Morte Amoureuse, ça, en gros, il y a une vampire qui est représentée dedans, et c'est très rapide à lire. Enfin, voilà. Bah, voilà, moi j'aime bien les personnages de vampires, parce que ils se déclinent de plein de façons. T'en fais un peu ce que tu veux au final, et puis c'est un peu des vecteurs pour parler de ce dont t'as envie de parler au final.
Et surtout, ça ressemble aux humains. Genre, c'est pas comme si c'était des loups-garous. Enfin, les loups-garous, il y a le côté animal, alors que les vampires, il y a plus le côté intellectuel. Enfin, c'est plus dans l'âme que c'est différent.
Ouais, c'est pas exactement pareil. Mm-hmm. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, il y a des vampires, enfin, partout. Enfin, je dis, il y a des films, des livres, des séries, des comédies musicales.
Il y a des webtoons, plein de webtoons.
Voilà, il y a des webtoons, il y a même des groupes de musique qui ont des concepts,
oui.
Des vampires.
Oui.
Il y a des, il y a des groupes de musique. Voilà, eux, c'est enfin, leur concept, c'est des vampires. Il y a des musiques où genre juste certains clips ou certaines chansons, c'est autour des thèmes des vampires. T'as
Slayer.
Des dessins animés autour de ça. Enfin, t'as vraiment une tonne de trucs par rapport à ça. Ça s'arrête pas du tout. T'as même des gens qui se prennent tous les jours pour des vampires aussi. Bon, ça, oui. C'est autre chose.
Il y a plein de jeux de vidéo.
Il y a des jeux vidéo bien sûr autour des vampires. Enfin, ça s'arrête jamais. C'est vraiment un élément hyper important de la culture. De la pop culture, mais de la culture en général, en fait.
En parlant des gens qui croient vraiment que ce sont des vampires, en fait, il y a eu une période où genre, je suivais une personne... Je ne sais plus si c'était Antox Colaboy ou si c'était... Non, je pense que c'était Antox Colaboy qui en avait parlé. En gros, il avait parlé d'une chaîne que c'était un mec qui mettait en vidéo en mode « Comment devenir un vampire ?» Et du coup... Genre, il expliquait comment faire, donc il faut aller faire un pentagramme. En plus, le pentagramme, il était mal fait et tout. Mmh. Et donc, en fait, dans les commentaires, il y avait des gens qui disaient « Putain, je pense que je suis un vampire et j'ai peur de faire mal à ma famille et tout. » Genre, il y a vraiment des gens qui croient vraiment qu'ils sont des vampires et que tu es en mode... En vrai, c'est terrible, en vrai. Genre, tu es en mode... En vrai, c'est même pas cringe, tu vois. Genre, c'est juste un peu effrayant.
C'est un peu effrayant.
Ouais.
Bon, je pense qu'on peut arrêter cette émission ici.
Ouais.
On se dit au revoir. Et à bientôt.
À la prochaine.
Et exactement à la prochaine. Et pour le générique de fin, on va lancer premier.
Le truc de dégénéré.
Opening.
Non, mais c'est pas dégénéré déjà.
Vampire Knights, qui est très connu et qui est quand même très très cool.
On ne permet pas le Trope and Test, mais on est bien d'accord d'une chose, c'est que les openings claquent un max. De on-off.
L'opening est
cool. Le groupe.
Non, mais j'ai vu.
C'est des frères.
Bon.
J'ai jamais entendu ça.
Au revoir.
Au revoir, les amis.
Au revoir. J'allais applaudir là. Don't know the secret.
歩きながら救われ